philosophé ou dormir ? Elle n'a pas osé me répondre. Tout le monde était comme ça en suspendu. C'était très amusant, mais comme elle était. Alors j'ai discuté un peu en la taquinant. Vous voyez, il faut de temps en temps taquiner pour éveiller, supprimer des a priori. Parce que je dis peut-être que pour vous, c'est un a priori affectif. Vous n'avez pas du tout envie de parler de votre âme. C'est mieux qu'on parle de votre corps. Puis alors, sur le minuit, est arrivée l'épouse du philosophe, qui était maîtresse de maison, puisqu'on était chez elle. Elle est arrivée avec le thé, les petits biscuits, tout ça. Alors, dès que le thé, les biscuits étaient versés, on avait quand même fait de la philosophie pendant 2 heures et demie. Il y a eu une baisse de la pensée et un primo du thé. Alors, je dis, vous avez constaté, mademoiselle, ce petit phénomène particulier, c'est que depuis quelques instants, on est tous à boire le thé qui est très bon, ça nous rafraîchit. Et puis, mais est-ce que pour vous, c'est la même chose, faire de la philosophie ou boire du thé ? Osez répondre. Alors je dis, c'est pas étonnant, vous n'osez pas répondre, parce qu'au fond, dès que vous acceptez la diversité d'expériences, c'est toujours vous. Vous êtes bien obligé d'aller un peu plus loin. Comment ça se fait-il? Il y a diverses expériences et il y a unité. C'est vous et c'est divers. Et cette diversité, vous la constatez. Alors on entrait, voyez, au vif du sujet. C'est sûr que vous avez conscience de faire de la philosophie, que vous avez conscience de prendre le thé, que vous aurez conscience de dormir, si on peut dire conscience. Vous saurez qu'il y a un moment d'arrêt dans lequel vous plongez et vous êtes absente de la conversation et vous dormez. Il y a des suspensions comme ça. Alors, on a discuté là-dessus. Et j'ai dit, puisque nous en sommes là, si vous voulez, nous allons prendre ensemble la découverte philosophique de l'âme. Comment découvrir notre âme au point de vue philosophique? Première expérience, l'intériorité. Et alors, je l'ai poussé là, venez, en philosophe. Je l'ai fait un peu comme Plotin. Il y a une Énéade de Plotin qui est merveilleuse pour montrer ce que c'est que l'intériorité. Et Plotin se met à discuter. Comment se fait-il, mon cher ami, que tu es toujours dans la distraction? Il y a un moineau qui dit, un oiseau qui chante, comme un gosse. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? J'aime beaucoup de faire ça, vous voyez. Tout le monde est bien sage, je suis bien le cours. Puis, on a mis un petit moineau dans le fond. Tout le monde se met à regarder le moineau. Avec une, quand même, une indiscrétion, une impolitesse de premier ordre, je parle. Et le moineau parle et ça vous intéresse plus, ce moineau, que vous. C'est quand même pas normal, ça. Oh, ça arrive tout le temps, ça. Même avec des gens très bien. Même avec des novices. Très pris par le jour, ils savent qu'ils sont là par obéissance. L'obéissance disparaît, le moineau paraît. C'est extraordinaire. Alors Plotin souligne, comment se fait-il que tu es si distrait? Toi qui cherches la vérité, la distraction, phénomène philosophique, la distraction, qui est très forte. On a beaucoup de peine à ne pas être distrait. Et la jeunesse d'aujourd'hui, qui a des qualités énormes, a quand même des qualités énormes de distraction. On a une peine énorme de maintenir l'attention quelques minutes, de sorte que j'arrivais à dire que la première chose au point de vue philosophique, c'était de permettre aux gens d'écouter, et d'écouter de façon intelligente. C'est-à-dire en vivant, ce qui est en soi. Écoutez, être attentif, découvrez l'intériorité. Parce qu'au fond, c'est un phénomène d'intériorité. Ce n'est pas le moineau ou la colombe ou n'importe qui d'autre qui donne une distraction qui vous permet de découvrir l'intériorité. C'est au contraire, parce que nous sommes des êtres très extérieurs, que nous sommes sensibles à tous les bruits de l'extérieur. Si on était un peu plus intérieur, ce qu'on pense, ce qu'on aime, prendrait toute notre vie. Et on serait pris par ça, on ne s'occuperait plus de ce qui nous lie à l'extérieur et ce que nous lie à l'intérieur. Donc, le phénomène de l'intériorité, nous devons l'expliquer philosophiquement. Comment se fait-il que nous pouvons arriver à être attentifs à quelque chose qui nous intéresse et par le fait même d'être autonome par rapport au milieu dans lequel on est. Quand je suis distrait, je ne suis plus autonome, je dépends de celui qui, dans le fond, fait un bruit spécial, parce que l'oiseau n'a pas beaucoup d'attention, sauf si vous le fixez avec une très grande attention. Le dialogue entre le bois et un oiseau. Je l'ai pas vu moi, mais j'ai vu là-bas, en Afrique, un père qui avait vu ça. Et paraît-il que c'est très extraordinaire de voir la manière dont le serpent capte toute l'attention. Alors, ce n'est pas l'intériorité, mais c'est quand même assez curieux. C'est au-delà des sensations extérieures. Il y a un phénomène d'attraction. Pour l'homme, il y a un phénomène d'attraction très fort, beaucoup plus fort, quand on est pris et qu'on a une vie intérieure. Tandis que là, il faut un autre pour intérioriser. Le petit oiseau n'a pas de vie intérieure. Mais si un autre le capte, le séduit, il est pris. Et pour l'homme, pour nous, nous avons cette expérience d'intériorité. Et quand il n'y a plus du tout d'intériorité, il y a des méthodes d'intériorité. Le Zen, la méthode transcendantale du Zen, c'est bien une méthode d'intériorité. Vous essayez de vous couper complètement de tout l'extérieur pour vivre de ce qu'il y a de plus intérieur en vous. Et pour être plus intérieur, vous ne regardez même plus un objet. Vous regardez être attentif à l'intérieur. Au-delà de tout ça, pour être plus intérieur. Alors je ne dis pas que c'est bon. Je constate quand le monde devient très bruyant, et que c'est ça qui domine. L'homme a besoin de s'isoler, d'être ermite, pour être un homme d'intériorité. Premier phénomène, l'intériorité. Deuxième phénomène, et je crois qu'il faut toujours regarder ça. Deuxième phénomène, faites dans une journée de retraite, dans une journée de session, dans une journée habituelle, réfléchissez sur la diversité de vos opérations humaines depuis le matin, déjà dès maintenant, depuis le matin. Et quand vous prenez toute la journée, vous voyez que normalement, il y a une très grande diversité. Le réveil du matin, c'est une opération, c'est quelque chose de très particulier. Surtout quand vous êtes très fatigué, que vous avez mis un gros réveil pour le régiment, un très gros réveil, qui vous réveille brusquement, au milieu d'un cauchemar, au milieu d'un sommeil profond, et vous sortez du sommeil pour dire quel jour, où sommes-nous ? Surtout quand vous voyagez beaucoup, où sommes-nous ? Et vous découvrez ce passage du sommeil à l'éveil, qui est quand même une petite expérience qu'on fait tous les jours, normalement, et quelquefois plusieurs fois par jour, surtout quand il y a des cours. On se réendort. Voyons. Alors, je suis être présent, je veux être présent. Donc, on part de cette constatation que tout le monde peut faire avec plus ou moins de profondeur. Et vous pouvez décrire, c'est la phase de description, la conscience que vous avez de ces différents phénomènes. En faisant ça, vous vous intériorisez. Parce que cette conscience qui unit tous ces phénomènes vous intériorise. Et vous voyez que cette conscience est différente suivant les lieux dans lesquels vous êtes. Et c'est vrai. Il y a des lieux qui sont, comme diraient les artistes, des lieux bénis, où l'inspiration vient très vite. Il y a des lieux où c'est impossible. C'est pas pourquoi. On essaie par tous les moyens de s'intérioriser. Rilke dit ça magnifiquement à propos de l'inspiration. Il dit, bon, il y a quelque chose, un choc qui intériorise. Je prends l'inspiration, prenez l'amour. Intériorise aussi. Alors comment ça se fait qu'il y a deux mondes en nous? Et que j'essaie de décrire tout ça. Il y a deux mondes en nous. Il y a le monde de l'extériorité, où je me trouve avec les autres, avec un bavard qui parle tout le temps et que moi je peux rien dire, et que j'écoute, et puis à la fin ça me lasse. Au contraire, avec quelqu'un qui est muet comme une carpe, ou comme un crocodile, qui se tait tout le temps, et qui pense que le silence et d'or et divin, puisque le crocodile est un animal divin à cause de son silence. Parce qu'on considère que le problème de l'homme, c'est de parler. Et donc, si on ne parle plus, et qu'on reste un être humain, on est divin. Le silence de Dieu, vous voyez, que les néoplatoniciens et Plotin ont tellement bien saisi. Je vois qu'il y a deux mondes, le monde du silence, le monde de la parole, le monde de l'agitation, le monde intérieur. Désir être de plus en plus intériorisé. J'ai en moi deux mondes. Ça, c'est facile à comprendre. Et je sais que c'est quelquefois dangereux de pousser trop loin ces deux mondes. Parce que j'aurai une face, un regard pour l'extérieur, puis un regard pour moi, réservé à moi, qui m'est réservé, dans lequel personne n'entre. Le jardin scellé, selon l'expression des spirituels et des mystiques, le jardin scellé, qui est l'intériorité prise d'une manière très profonde. La méditation transcendantale du Zen, aujourd'hui. Un monde scellé, c'est scellé différemment que celui des mystiques, mais c'est scellé aussi avec des produits modernes, avec lequel on scelle encore beaucoup plus fortement, on rejette tout le reste. Et puis il y a le domaine habituel dans lequel je travaille, avec d'autres ou seul, je parle, dans lequel je fais quelque chose, je fais la cuisine, je réalise des transformations. Quand je constate ça, je constate que cela, si je suis un peu attentif et que que je me mets à réfléchir, je vois de plus en plus ces deux domaines. Un domaine de l'expérience extérieure, avec mes sens, par mon corps, et un domaine de l'expérience intérieure, qui va de plus en plus profondément. Et ça, je peux le décrire. Donc, je peux m'arrêter à cela, en voyant en moi qu'il y a ces deux aspects, qu'il y a la conscience de mes opérations intérieures qui échappent aux autres, que les autres ne peuvent pas saisir directement, sauf si je les fais entrer dans ce jardin fermé. Autrement, ce jardin fermé reste fermé. Et je suis seul à avoir les clés. Personne d'autre. Les autres diront, oui, tu es très fermé, tu ne parles jamais, tu ne dis rien. Tu n'as rien à dire. Et l'autre dira, non, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à dire, mais qu'il ne dit pas. C'est pas pour toi, c'est dit poliment. D'autres choses. Tu t'amènes ouvert à tout le monde. Si je suis philosophe, je réfléchis là-dessus. Et ça, ça demande une très longue réflexion. Et très intéressante. Comme lorsque vous demandez à un aveugle de naissance de décrire, non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il sent. Et vous voyez que cet aveugle, il y a tout un domaine qu'il essaie de réparer par les autres sens. Ce qui montre que ce domaine de l'extérieur qui se fait par nos sens externes peut très bien avoir des parallèles. On peut réparer ce manque. Et on peut très bien, par un autre sens, essayer de découvrir ce qui est caché. Et cela, alors, encore beaucoup plus dans l'intériorité. Et dans l'intériorité, je vois toute une série de profondeurs ou d'extériorité. Donc je vois que c'est extrêmement complexe. Le domaine de l'expérience humaine, de mon expérience, a une complexité énorme et une profondeur très grande, surtout si je suis un peu artiste, surtout si j'ai une imagination bien plantée. J'arrive comme ça à porter ces deux mondes. Et pourtant, ces deux mondes, c'est moi. Je vis de ces deux mondes. Je peux en préférer un. Je peux tout faire pour sauvegarder un de ces mondes. Et les deux, c'est moi. Et la diversité de ces mondes peuvent par là s'unifier. Mais il y aura toujours deux mondes. Si je suis philosophe, c'est-à-dire si je veux connaître qu'est-ce qui est à l'origine de cette dualité, je n'ai pas inventé. Cette dualité s'impose à moi. Comme toucher quelque chose, ça s'impose à moi. Le voir, ça s'impose. Dualité s'impose. Et pourtant, je suis au-delà de cette dualité. Il y a quelque chose de commun à cette dualité, c'est moi. Et si j'en parle avec mon voisin, je vois qu'il a organisé autrement son intériorité que moi. La vue extérieure des choses. Il l'a organisé autrement que moi. Si de fait, Je vois que ma vue diminue. J'organise différemment. Les premières fois, je dis ah, c'est terrible. Je vois plus dans ce paysage que je voyais avant. Ça diminue. Mon monde extérieur diminue. Si je commence à devenir sourd, mon monde extérieur diminue. Et au fond, de plus en plus je me replie. Mon monde intérieur augmente, s'intériorise, et le monde extérieur diminue. Au début, j'en suis désolé. Après, je dis, c'est très bien. Comme ça, je peux davantage réfléchir, penser. Et c'est ce qui est le plus important. C'est curieux, hein, cette manière dont on équilibre, ou au contraire, on est furieux. C'est dégoûtant, on fera tout ce qu'on peut pour supprimer ça. Si je réfléchis, je vois donc qu'en moi, il y a deux sources de vie. Une qui me lie au milieu dans lequel je suis. L'autre qui me dépouille du milieu extérieur dans lequel je suis. Et je ne vis que de ce qui vient de moi. C'est tout à fait différent. Et ces deux sources, ou ces deux mondes, impliquent une source. Il y a une source commune, c'est moi. Et il y a une diversité, c'est moi. Et c'est à partir de là que je me pose la question. Je sais que les traditions religieuses parlent de l'âme. Je sais que beaucoup de philosophes en ont parlé. Je sais ça. Je sais qu'à un moment donné, on a lutté contre cette dualité. On l'a rejetée. Et qu'on la rejette. Et que certains philosophes veulent unifier en disant inutile de regarder cette dualité. Pourquoi disent-ils inutile de regarder cette dualité ? C'est qu'au fond, ils regardent le dénominateur commun de ces deux mondes, qui est la conscience. J'ai conscience de... Et pour eux, l'unité se ramène à la conscience. Si vous êtes attentif à Merleau-Ponty, et je prends lui parce qu'il est tout proche de nous, parce que je pourrais prendre les Grecs, je pourrais prendre dans le monde d'aujourd'hui ceux qui nient l'existence de l'âme. Feuerbach. C'est toujours intéressant de voir ça. Eh bien, c'est en fonction de ce qui fait l'unité de ces deux mondes. Autrement dit, c'est en fonction de la pénétration et de l'analyse qu'ils font de ces diverses expériences. Si, en effet, le dénominateur commun, la conscience que je peux avoir, je m'en tiens uniquement à cela, je dirais oui. La conscience fait l'unité. Mais si je vais plus loin et je ne m'arrête pas au dénominateur commun interne, et si au-delà de la conscience, j'étudie le caractère propre de ces diverses opérations, je fais l'analyse de ces diverses opérations. Je vois que parmi ces opérations, il y a les sensations qui sont présentes. Et de l'autre, un au-delà de ces opérations sensibles. Et donc, d'un côté, je maintiens la présence d'organes physiques, biologiques. Et de l'autre, je vais plus loin. Et donc, ce n'est plus la conscience qui fait l'unité, ou plus exactement, c'est l'au-delà de la conscience. Et et dans la sensation du bon vin que je bois, de la nourriture que je prends, je vois toute la différence. Une opération, elle, est au-delà de tout ce domaine sensible. Et l'autre me plonge dans le domaine sensible. Donc, je suis bien au-delà de la conscience. Je vois ce qui constitue la nature même, l'essence même de telle, telle opération. Et je vois que d'un côté, les éléments sensibles sont présents, et de l'autre côté, il y a un dépassement des expériences sensibles. Et c'est par là que je vois, que je touche quelque chose d'extrêmement important. Certaines de ces opérations n'ont aucun lien direct avec le corps. Et d'autres, au contraire, impliquent le corps. Et ceci, c'est dans l'analyse même que je fais de ces opérations. Il faut donc qu'il y ait une source de ces opérations spirituelles distinctes, qui ne puissent pas être la même. Donc autre que la source de ces opérations qui impliquent la présence du corps. Il y a donc deux principes, deux sources tout à fait différentes. Et je rejoins là ce que, de fait, on a appelé le point de vue du corps et le point de vue de l'âme. Réfléchissez bien à cela. Par un effort inductif, ce qu'on appelle l'induction, mon intelligence saisit à travers mes opérations et la conscience que j'ai de ces opérations qu'il y a en moi une source spirituelle, c'est-à-dire au-delà de la matière et du sensible. Et une source sensible. Il ne faut pas dépasser l'heure, alors je m'arrête. Continuez la réflexion pour voir comment nous pouvons d'une façon intelligible et intelligente, non pas de façon logique, mais saisir ce réalisme que je découvre entre certaines de mes opérations qui sont plongées et qui demeurent plongées dans l'aspect